Il y a une question qui revient souvent dans ces domaines, c'est quelle part justement naturellement de la biologie et quelle part vient de l'éducation, par exemple vis-à-vis des circuits neuronaux dont vous avez parlé.
Voilà, et ça c'est une très bonne question parce que alors, même je la ressens comme essentielle. C'est qu'en fait, notre éducation développe notre nature. Par exemple, parmi nous, il y a peut-être quelqu'un qui serait très bon, par exemple, comme avant-centre. C'est quoi une courbite? Bon, je fais quoi? Moi, je suis très bon quoi?
Défenseur.
Tu es très bon défenseur. Bon. Mais plus tu as des aptitudes, donc, de défenseur, mais plus tu t'es entraîné, plus tu as développé ces aptitudes. Donc, l'éducation développe des aptitudes. L'inné et l'acquis, c'est ça. On a un inné, des aptitudes, on a plein d'ailleurs d'aptitudes. Et on les développe par l'éducation. Donc, en effet, si les petits gars jettent des cailloux sur les filles, ce n'est pas tout à fait adapté. Donc, il faut les éduquer. Moi, j'ai un petit gars qui est très masculin, il est adorable, mais il est casse-pied. Parce que ça gicle en permanence. Masculinité, ça n'arrête jamais de gicler, vous voyez. Et donc, sa maman lui a appris à canaliser son énergie. L'exemple que donnait, c'est comme la vapeur. Si la vapeur, vous la laissez fuir, ce n'est pas une énergie. Si vous la canalisez, ça fait le chemin, les machines à vapeur. Hein. Et donc, lui, la testostérone doit être très présente en lui, ça gicle, il a appris à canaliser. Donc, pour en effet pas jeter des cailloux sur les filles.
Ça va une question, mais là,
j'ai répondu ou pas à votre question?
oui, tout ça.
Vous avez pris l'exemple tout à l'heure des petits garçons et des petites filles qui préfèrent jouer aux poupées et aux camions. Vous vous dites que c'est plus ou moins acquis et lié à ce qui a été acquis au moment de la naissance jusqu'à 1 an.
C'est inné, vous, donc, du
Inné,
coup.
oui, alors que là, plein d'études qui montrent que c'est pas du tout inné et que c'est juste un fait sociétal.
Alors,
Qui fait que les deux sont ça,
c'est
parce
très
qu'il y a
bien.
des.
C'est très bien.
Comment
Alors, c'est très bien. D'abord, je vous propose que vous me montriez les études. Parce que dans mon livre, je pourrais avoir cité une dizaine d'études qui montrent le contraire. Et non, il n'y a pas d'études qui montrent que c'est acquis. Mais il y a des études, pour aller dans votre sens, qui montrent que c'est développé par l'éducation. Mais à partir de quelque chose d'inné. Et en particulier, vous parliez des garçons et des. Vous savez, les petits animaux. Les petits animaux masculins, mammifères, préfèrent les formes cubiques, ou tout du moins n'ont pas de préférence pour les formes rondes. Les petites femelles, de beaucoup de mammifères, ont en moyenne plus de préférence pour les formes rondes. C'est-à-dire que la forme ronde, qu'on soit homme, chat, singe ou j'ai pas vu des études sur tous les animaux, on les préfère en moyenne si on est fille, femelle.
Peut-être d'accord pour les formes rondes et les formes carrées, moi je ne connais personne sur cette planète Terre qui, si on ne lui avait pas ingréné que c'est fun de faire le ménage, instinctivement aurait voulu avoir un aspirateur.
Tout à fait. Et je crois même, moi, pour aller dans votre
Alors
sens.
qu'il y a une tour de Capla qui s'effondre, ça fait n'importe quel gosse de 3 ans.
Vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas le fait d'apprécier, d'avoir des différences, ne signifie pas que du coup les femmes doivent faire le ménage et les hommes doivent aller palabrer sous l'arbre à palabres. C'est ça ce que vous dites.
Ben, ce que je veux dire, c'est que vous dites que c'est des choses
Je n'ai pas parlé de ménage.
Non, on n'est pas du
Non,
même.
parce que.
Ah non, mais bien sûr, mais je peux encore un peu sur l'idée, c'est-à-dire que
Non,
quand
mais
même,
c'est
les
bien, je vais
jouets
prendre
genrés.
4 c'est chouette.
Non, mais les jouets genrés, quand on. Quand,
Attendez,
instinctivement.
jouets genrés, non, non, non,
Non, mais
dites-moi
c'est.
de quoi vous parlez.
Ok, quand vous parlez de poupée et que vous parlez de câlin, la poupée, en général, elle vient pas toute seule. Elle vient aussi avec une dinette et elle vient aussi avec un petit balai pour nettoyer après la dinette.
Non, mais attendez, je vous entends, mais chez le chat. Chez qui on fait l'expérience, ou chez le singe bonobo, ou chez. Ça serait quoi alors? Donc, ce que je vous dis, c'est que les neurosciences ont montré, ont découvert. Ah,
Mais je nie pas le fait qu'il y ait une
non,
appétence.
mais vous comprenez. Donc, ça n'est pas une raison pour moi pour dire les hommes à la voiture, les femmes au football. C'est un peu ce que vous craignez.
Un peu, et puis il y a aussi le fait que...
Non mais attendez, est-ce que vous voyez qu'il n'y a pas de lien? Il n'y a pas de...
Il n'y a pas de lien. Non mais scientifiquement, d'accord. Je suis d'accord qu'il n'y a pas de lien, mais que les études que vous faites, qui sont très intéressantes, qui sont très utiles, je ne vais pas le nier, c'est hyper intéressant de savoir pourquoi est-ce que les schémas qu'on observe dans la société, d'où ils peuvent venir. Par contre, j'ai une petite crainte, quelque part, que ces études puissent venir renforcer des idées qui sont un peu...
Mais je suis complètement d'accord avec vous. Il ne faut pas se faire de la science comme d'un outil pour faire passer ses opinions. Donc, la science n'est pas là pour imposer des choix de société. Donc, vraiment, je le pense. Par contre, dans la vie conjugale, dans la vie d'une équipe, moi, j'ai géré une équipe pendant 17 ans, eh bien, c'est très important d'avoir des hommes et des femmes. Ils sont extrêmement complémentaires. Chez nous, ils étaient très complémentaires. Et si on avait eu que des hommes ou que des femmes, l'équipe ne serait pas développée pareil. Un été, je suis parti en vacances et j'ai fait exprès de choisir une chef de succès adjoint femme. Et maintenant, c'est une femme qui m'a succédé. C'est aussi une femme qui a succédé. C'est deux femmes maintenant. Mais disons que moi, j'ai fait exprès de choisir un successeur femme pour enrichir la maison des dimensions masculines et féminines. Et je vous donne un exemple, moi, qui m'a convaincu, il y en a d'autres, mais qui m'a beaucoup touché. Je pars en vacances et on devait embaucher un ingénieur. Et je ne pourrais pas m'embaucher moi-même, ça touchait un petit peu, ça m'ennuyait un peu, parce que quand vous êtes chef de service, c'est bien d'embaucher des gens, pour plein de raisons. Et donc, j'ai dit à ma collègue, ça ne t'ennuie pas de les recevoir, tu choisiras. Je reviens de vacances, je lui dis bonjour, j'ouvre le bureau, et je vais vers le bureau, et je vois quelqu'un que je ne connaissais pas. Je dis, ah, ça va être embauché. Et puis je continue, j'arrive à mon bureau, et puis dans la journée, je repasse devant cette porte, un homme complètement transi de peur devant son ordinateur, et je me dis, mais qui est-ce qui est embauché? Donc je vais voir ma collègue. Nadine, ça va, ça s'est bien passé, l'embauche. Oui, ça s'est bien passé, on a choisi avec une collègue, et on a choisi, vraiment, on est content de notre choix. Et je dis, il est très timide. Ah oui, si on ne l'avait pas embauché, personne ne le prenait. Donc leur critère de choix, c'était qu'il fallait le prendre, parce que chez nous, il s'épanouirait, et d'ailleurs, il serait pas embauché. J'ai retenu ma colère et je vous la fais court. Maintenant, c'est dans la région Rhône-Alpes l'homme le plus compétent pour analyser les questionnaires de psychiatrie. Cet homme est d'une délicatesse, d'une précision dans ses analyses inégalée. Donc, elles ont bien choisi. Mais leur critère de choix n'a pas été le mien. Des critères de choix de qualité humaine. Et donc, peut-être que c'est genré, comme vous dites. Mais oui, de fait, il y a des hommes et des femmes, et c'est riche d'avoir les deux. Pour moi.
Je trouve votre information très, très intéressante parce que c'est qu'on a souvent un courant scientifique ou pseudo-scientifique qui consiste à expliquer qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, du moins qu'elles ne sont pas liées à des choses tangibles et des choses médicales. Et c'est vrai que je pense que le risque, justement, ce serait peut-être de faire l'autre extrême, qui serait de ne voir que des différences biologiques et ne pas tenir compte de la part sociale. Et donc, moi, mon questionnement, c'est de se dire, voilà, quelle serait la proportion entre différentes pratiques que vous avez citées, des pratiques culturelles plutôt rattachées aux garçons et aux filles, et quelle serait la part sociale et quelle serait la part biologique. Et bon, c'est quelque chose qui est assez très complexe.
Mais peut-être que je vous propose, nous ne sommes pas des schtroumpfs. Il n'y a pas schtroumpf femme, schtroumpf homme, complètement caricatural. Il y a une très grande diversité des personnes qui sont des femmes avec des capacités plus fréquentes, plus souvent que chez les hommes, et inversement. Et ça, c'est la richesse de la société. Mais dans une équipe, si vous voulez, trouver les ressentir, écouter les inclinations des autres, les goûts, et voir leurs attitudes, ben, c'est la richesse. Donc, si on est, si on s'ouvre aux qualités féminines, par exemple, pour ce qui est de moi, être plus attentif aux qualités féminines, aux inclinations féminines, et m'en enrichir en les accueillant, me paraît très très important. Et de la même manière, les hommes actuellement se demandent finalement à quoi ils servent. Et j'ai un ami qui est éducateur, formateur d'éducateurs au Kenya, Fred Olwemi, un homme très connu dans les pays alentours, c'est un homme très compétent. En termes d'humour, il dit, vous savez ce que c'est qu'un homme ? Vous savez ce que c'est qu'un homme ? C'est quelqu'un qui, toute sa vie, doit essayer de faire comme une femme, mais en sachant qu'il n'y arrivera jamais. Donc, c'est sûr, c'est durement vrai. Et moi, je m'amuse très souvent, je donne beaucoup de conférences, je ne vais pas le faire là, on est trop peu nombreux, puis on a d'autres choses à faire. Je dis, allez, citez-moi des qualités féminines. Une feuille, deux feuilles, trois feuilles, on s'arrête. On sait bien que les femmes sont bourrées. Super. Allez, citez-moi des qualités masculines. Je vous promets qu'on ne finit pas la première feuille. Et à mon avis, c'est grave. C'est grave parce que, d'une part, c'est difficile d'élever un garçon, parce qu'on a besoin de rêver de devenir quelqu'un de super. Et soi-même, on a besoin de savoir ce qu'on doit développer en nous comme capacité. Vous voyez ? Et c'est génial. Et dans un couple, on a besoin de se dire, ben, tel besoin de ma femme, ce n'est pas une faiblesse de sa part, c'est une richesse. Si vous voyez, le coup typique, c'est le bouquet de fleurs. Moi, mon épouse a tellement besoin de bouquet de fleurs qu'il lui est même arrivé à faire ce qu'il ne faut pas faire, mesdames. C'est s'en acheter elle-même. Ça, c'est dramatique. Je ne lui en ai plus offert pendant un an et demi. C'est une blessure narcissique énorme. Parce que l'homme, en fait, parmi ses inclinations, de jeter les cailloux, ça c'est pas bien, mais il y a l'inclination de prendre soin. De prendre soin. Nous, on a envie d'être chevaliers. Donc, les petits gars, on peut développer chez eux, pas les mauvaises facettes, jeter les cailloux, mais leurs facettes, être chevalier, être chevaleresse. Nous, c'est notre bonheur. Et ça touche. Écoutez, sans prolonger comme si j'avais une semaine avec vous pour discuter, je pourrais vous présenter 500 trucs sur le sujet, mais vous trouverez le temps long, surtout la nuit là. Eh bien, nous avons le goût et l'aptitude, les hommes, à devenir chevaleresques. C'est-à-dire à prendre soin, à être disponible. Même dans l'union intime, ce qu'espère l'homme et ce qu'espère la femme n'est pas la même chose, en moyenne. Que dans l'union intime, on a un bouquet hormonal, tous les deux, qui jaillissent dans nous, hein, notamment l'ocytocine, la prolactine, la dopamine, la sérotonine. Que fait en nous l'ocytocine ? L'ocytocine nous attache à l'autre. L'ocytocine nous attache à l'autre. C'est le même ocytocine qui attache le papa et la maman au bébé, et le bébé à son papa et sa maman dans les premiers jours de la vie. L'ocytocine nous attache à l'autre. La prolactine, c'est pas faire que pour faire du lait, hein, c'est pas que pour préparer du lait, c'est l'hormone du prendre soin. Ça nous donne envie de prendre soin. Donc, dans l'union intime, non seulement on s'attache à l'autre, mais on a envie de prendre soin de lui. Tout du moins, on est aidé à cela. La dopamine, on peut dire une hormone de bien-être, la sérotonine, qui sont conjuguées pour le bien-être. Eh bien, on attache donc le bien-être à la présence de l'autre dans l'union intime. D'où l'importance de ne pas gaspiller les unions intimes avec plusieurs personnes, parce qu'on s'attache à toute la société, mais on ne s'attache pas à une personne. Si on est fidèle, et c'est de plus en plus facile d'être fidèle. Et dans un couple, les unions intimes nous sont données parmi les éléments de notre fidélité. C'est-à-dire que chez certains animaux, la fidélité, elle est carrément génétique. On a trouvé le gène, par exemple, de la fidélité du campagnol des États-Unis. Il y a un petit campagnol qui est extrêmement fidèle aux États-Unis. Extrêmement fidèle. Et donc, il est l'objet de recherche. Le pauvre, il souffre, il calme et tout, hein, parce qu'ils sont l'objet de recherche par un tas de chercheurs, parce qu'on voulait trouver s'il y avait un gène de la fidélité. En effet, il a un cousin, le campagnol des collines, qui n'est pas fidèle. Donc, les chercheurs ont cherché, c'est le boulot des chercheurs, et ils ont trouvé un gène qui était différent. Ils l'ont donc fait passer dans le campagnol des collines. Et le campagnol des collines est devenu plus fidèle. C'est quand même intéressant. Il y a beaucoup de, vous savez, beaucoup de femmes qui aimeraient qu'on greffe ce gène aux messieurs. Et donc, parce que chez l'homme, nous sommes aidés hormonalement. Nous sommes aidés hormonalement à la fidélité, mais ça ne suffit pas. Il faut dire je veux. Chez l'homme, on a le libre arbitre qui est nécessaire pour la fidélité. De fait, il suffit. On n'est pas complètement déterminé hormonalement et génétiquement pour la fidélité. Il semblerait qu'on ait aidé, nous, à peu près entre 2 et 7 ans, il y a encore de l'aide, après la naissance d'un enfant. On est 2 à 7 ans à la naissance d'un enfant, on est aidé à la fidélité. Mais aidé, il y a beaucoup d'hommes, par exemple, qui foutent le camp après la naissance, hein, et qui laissent tomber la femme avec son petit. Parce que l'homme a volontiers le désir de transmettre la vie, de faire des petits, mais beaucoup moins de prendre en charge la mère et l'enfant. Donc, si on a bien développé la dimension chevaleresque de nos enfants, ils savent que leur avenir, c'est de prendre soin, alors ils ont plus de chance. Donc, personnellement, je trouve que les neurosciences ne nous apprennent des choses.
Une question qui tape peut-être un peu au sacré mal, et ça rejoint ce que tu disais.
C'est sympa. Oui, il faut un peu râler, parce que sinon, vous partirez, vous direz, oui, d'accord, bon, enfin, bon.
Et est-ce que dans vos recherches, est-ce que, bah, vous savez, il y a par exemple la question de. La femme au foyer versus l'homme qui va travailler. Et est-ce que ça...
C'est un peu périmé quand même. Hein.
Oui, mais est-ce que justement c'est inscrit dans la nature où il y a des tendances?
J'ai jamais vu qu'il y ait dans la nature que les femmes prennent le balai et les hommes vont se mettre devant la télé avec une bière. J'ai pas vu ça. Mais dans nos... Vous comprenez, vous savez, quand les gens qui font de la recherche sur ça, ils ont plein de dimensions hormonales, anatomiques et évolution. Et l'évolution, c'est riche. Hein. Et il est vrai que pendant ces 10 millions d'années, on a eu en moyenne des fonctions différentes dans le groupe familial humain. Vous voyez ça? De la même manière que le lion et la lionne n'ont pas la même fonction, la lionne est capable de courir après une proie pour l'attraper, le mâle est absolument incapable. Le mâle est incapable. Par contre, au combat rapproché, la lionne ne fait pas le poids. Le lion fait le poids. Donc le lion est bâti pour défendre la maisonnée, et il le fait sans aucune tendresse. Parfois il tue les petits. Et la lionne est capable de courir. Voyez. Donc en fait, l'évolution du groupe a sélectionné des gènes qui en fait ce qu'ils sont. Eh bien nous, pendant 10 millions d'années, on n'a pas eu la même mission en moyenne, les mâles et les femelles humains. Donc c'est vrai que nous, on a des inclinations et des aptitudes qui sont plus développées pour la distance. Par exemple, la gestion de l'espace. Je ne sais pas vous, mais moi, j'adore ranger les valises dans le coffre des voitures. Et les hommes, ça, ils sont d'accord de le faire. Mais c'est banal. Ils sont beaucoup plus doués pour la gestion dans l'espace. Donc comme on réussit bien, on croit qu'on réussit bien, on est content. On est content si on fait quelque chose. Alors que ma femme, qui a moins cette aptitude, eh bien, ça la saoule. Et moi, je suis super content. Je dis, oui, mais chérie, je m'occupe des valises. Même tout à l'heure, c'est ce que je lui ai dit. À la campagne, je vais t'inquiète pas, je m'en occupe. Parce que les hommes, on a cette aptitude. Si tu as les 6 premiers mois après la naissance d'un enfant, notre testostérone baisse. Ça nous aide à rester à la maison, auprès de, ça nous aide à prendre soin de notre famille. Ça, ce n'est pas décrété par les scientifiques ou la culture. C'est que si vous voulez, très probablement, pendant, on laissait les hommes qui avaient des petits au clan pour porter la main, faire des travaux plus proches, ils n'allaient peut-être plus combattre, moi je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que notre testostérone est diminuée quand un petit est là. Et si on s'occupe du petit, eh bien la testostérone ne remonte pas. Elle reste basse pendant le temps où on est dans notre épouse. Oui, c'est passionnant. Hein. Et nos hormones changent chez l'homme dans les 3 mois qui précèdent l'accouchement de notre femme, si on vit avec elle. Et les hormones de la femme aussi. Et plus les hormones de la femme se préparent en faveur de prendre soin du petit, plus les hormones de son conjoint évoluent aussi. C'est-à-dire que si, en fin de grossesse, les 3 mois, on a hommes et femmes, des hormones qui nous préparent. Hein. On a dit testostérone, prolactine, ocytocine en particulier, qui sont à des taux plus adaptés pour prendre soin. Eh bien, si mon épouse a des taux qui s'adaptent mieux au prendre soin, moi aussi, homme, j'aurai des taux. On est en résonance, qu'on appelle la synchronie biocomportementale. On se met en synchronie. On se met en synchronie.
Mais du coup, pour l'enfant, si jamais la mère n'a pas autant d'hormones, le père n'en aura pas.
Tout à fait. Et là, on risquera d'avoir à dire « je veux » parce que ce petit en a besoin. Ouais. Les hormones ne font qu'aider. On n'est pas déterminé par nos hormones. Hein, on n'est pas déterminé au sens… regardez, par exemple, dans le cycle féminin. Le cycle féminin, la femme a des temps hormonaux. Il y a 3 périodes hormonales dans le cycle féminin. Eh bien, ça n'empêche pas d'être une femme libre. Mais simplement, il y a des moments, elle est plus encline à certaines choses qu'à d'autres. Ça lui est plus spontané. Vous voyez ce que je veux dire? Après l'ovulation, la femme est plus encline, je vais vous répondre, la femme est plus encline à voir loin. Elle veut prendre du recul. Elle est plus encline parce qu'elle a des hormones maternelles. Elle a de la progestérone. Alors elle est plus encline, il semblerait que c'est ça qui fait qu'elle voit plus loin. Elle pense plus loin. Au contraire, en période fertile, elle ne l'a pas du tout, cette capacité. Et en période fertile, elle a beaucoup plus d'hormones de l'attachement. Si vous regardez la courbe d'ocytocine dans un cycle, ça culmine au moment de la période fertile. Elle a plus d'hormones de l'attachement. Donc vous voyez, ça n'enlève pas sa liberté, mais elle est plus encline. Vous voyez, de la même manière qu'il y a des jours où on a envie de bouquiner, puis des jours où on a envie d'aller faire des courses, des jours où on a envie d'aller se mettre dans un hamac, des jours où on a envie de la piscine, hein. Ça, c'est des inclinations. Eh bien, ces inclinations sont liées à nos hormones, mais sans nous déterminer absolument. Ça n'empêche pas notre liberté. Vous voulez poser une question, vous faire une affirmation.
Non, je me permets de rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait qu'on avait tendance à reconnaître beaucoup plus de qualités typiquement féminines que des qualités typiquement masculines. Et je trouvais ça intéressant que l'exemple que vous preniez, ce soit le fait d'être chevaleresque, vous décriviez ça comme étant une appétence à prendre soin de l'autre, est-ce que ça ne voudrait pas dire qu'un certain nombre de qualités féminines, parce que quand on la phrase comme ça en disant prendre soin de l'autre, assez souvent il y a plein de gens qui vont penser que c'est la mère qui prend soin de ses enfants, la femme qui prend soin de... Est-ce que ce ne serait pas un certain nombre de qualités, juste une question de mots en fait, de façon différente d'exprimer les mêmes appétences?
Vous êtes terrain, vous? Non. Vous êtes médecin, vous?
Oui.
Non, c'est pour savoir, parce que je trouvais que la nuance, vous établissez une catégorie prendre soin. Mais le chevalier prend pas soin de l'enfant comme sa mère.
Non, mais
le chevalier, il prend une épée et il est prêt à tuer tout ce qui bouge. De la même manière que, si vous voulez, le lion et la lionne, prend soin de son petit, et elles sont assez sévères, les mamans lions. Mais elles prennent soin des petits, elles se laissent enquiquiner, mordiller les jambes et tout, tétouiller, elles auraient peut-être envie d'aller faire autre chose. Donc elles prennent soin du petit. Le lion, lui, si c'est son petit, il prend soin, mais comme ça, en faisant la gueule, tous ceux qui approchent, fais gaffe à ton nez, je te mords. Le chevalier défend. Le chevalier prend pas soin. Donc l'homme, personnellement, je pense, peut dire, moi, je prendrai soin de toi à cette femme. Moi, tu m'en connais, j'ai essayé d'être le compagnon de mon épouse, mais avec le sentiment qu'elle aurait des choses à vivre dans sa vie qui seraient bien au-delà de moi, des choses beaucoup plus diverses. Enfin, conjuguer boulot et famille, par exemple, c'est pas si simple. Et donc, moi, je peux prendre soin. Et donc, je dis moi, mais je vous donne un exemple personnel. Ce sont des choses établies scientifiquement. Hein. C'est pas de moi. C'est pour ça que je prends des exemples animaux pour l'illustrer, parce que les scientifiques ont regardé comment, où ça se situait hormonalement. Je donne quand même la parole à quelqu'un d'autre. Après, on pourra revenir.
Si j'ai bien compris, vous avez dit que l'évolution a fait en sorte que les groupes sociaux des lions marchent mieux si les hommes, enfin si les lions défendent et les lionnes pour après les proies. Et du coup, en fait, j'ai du mal à comprendre comment seule l'évolution peut déterminer que ce soit les mâles qui défendent précisément et les femelles qui chassent.
Très bien. Je vous ai dit que personnellement, je pense que il y a la main de Dieu derrière tout ça. Mais Dieu, il travaille par l'évolution de la même manière que le jardinier travaille en arrosant ses plantes, ça pousse, mais il faut s'en occuper quand même. Donc, pourquoi le mâle et la femelle? Vous savez la définition du mâle, du masculin, que ce soit le masculin et le féminin, la définition, que ce soit les protozoaires ou les métazoaires ou les eucaryotes ou les fleurs, ou les... vous savez comment on fait?
Ouais. La femelle, c'est celle qui donne la gamète avec l'énergie dedans.
Cultiver ce jeune collègue. Oui, c'est le mâle, c'est ce qui se déplace. Et le gamète, c'est ce qui apporte la nourriture pour les premiers moments. En effet, c'est pour ça que les ovules, c'est voyager. Hein, c'est un convoi exceptionnel. Hein. Il n'y a qu'un par cycle, et c'est une œuvre d'art, l'ovule. Puis l'ovule est entouré d'une. Centaines de cellules qui travaillent pour lui. C'est comme la reine d'une ruche d'abeille. Donc on voit exceptionnel. Tandis que le mâle, c'est celui qui se déplace. Le mâle, celui qui se déplace, donc lui, il apporte en fait le capital génétique et il a un flagelle. Ça, c'est vrai, que ce soit chez les plantes ou chez les humains. Et donc, de fait, vous voyez, il y a quelques exceptions. Il y a quelques exceptions. C'est-à-dire que des millions d'espèces. Je ne sais pas combien d'exceptions. Mais on compte sur les doigts, peut-être pas d'une main, mais le nombre d'espèces où les rôles sont inversés entre le mâle et la femelle. Parce qu'en fait, c'est souvent celui qui apporte la nourriture, qui de fait va porter le petit, quand c'est un mammifère, c'est aussi la femelle qui porte le petit, c'est celle qui apporte la nourriture. Et de fait, le corps d'une femme, de fait, je ne sais pas, enfin, tout mon bouquin dit, tout le livre de biologie de la reproduction, mais le corps féminin est en de multiples lieux organisés pour pouvoir transmettre la vie et nourrir le bébé. Donc nous qui n'avons pas ces missions, on peut en prendre d'autres, c'est de prendre soin. Hein, je suis d'accord, prendre soin et non pas dorloter obligatoirement, même si les hommes adorent dorloter. Hein. Mais disons que, vous voyez, je crois que c'est bien de constater que les hommes ont des potentiels qu'ils peuvent développer au service de la société et de la famille. Vous voyez. Et moi, je trouve ça un potentiel extraordinaire. À titre personnel, j'essaye de m'améliorer dans notre vie conjugale en sachant que j'ai peut-être des aptitudes que je peux mettre au service de mon épouse. Mais aussi, quand même, j'ai beaucoup, beaucoup gagné en admiration de mon épouse depuis que je regarde ses capacités comme des capacités et non pas comme des défauts. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez, par exemple, vous voyez, il y a des trucs. Écoutez, les filles, quand vous trouvez, vous parlez des mecs. Mais nous aussi, on parle des filles, on parle des filles. Et on n'en dit pas toujours, on ne dit pas des, sur les filles, toujours des choses vengeuses. Et oui, et vous ne dites pas toujours du bien des hommes. Vous êtes d'accord? Eh bien, en fait, on se trompe beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, on laisse atrophier. On laisse atrophier des potentiels extraordinaires. Et des potentiels extraordinaires qu'on laisse atrophier. Alors que si on magnifie, vous savez ce que c'est, hein, la classe, c'est d'en trouver chez les autres. Hein. Et donc, plus je trouverai de classe chez les filles du service, du labo, ou chez mon épouse, plus elles pourront les développer, et j'espère qu'elles feront pareil pour moi. Vous voyez ?
J'ai une question par rapport à ce que vous disiez sur le cerveau qui, qui sélectionne ses neurones. Vous disiez que ça n'a rien à voir avec les hormones. Et donc si par exemple un enfant avant la puberté, on lui donne comme
ça... Mathématiquement, ça n'a rien à voir.
C'est quand même, est-ce que l'action est quand même impliquée par les hormones pour les enfants, notamment qui prennent des bloquants hormonaux?
Ah oui. Alors,
ça se fait quand même
par rapport à leurs hormones. Alors, contrairement à ce qui se dit, c'est impossible de faire un petit garçon en prenant une petite fille. Un petit garçon. On n'a jamais réussi. Et vous ne pouvez pas faire une petite fille en prenant un petit garçon. C'est-à-dire qu'en fait, vous dites, il souhaite. Donc les parents se décarcassent, il va dans des cliniques, etc. On n'y arrive jamais. En fait. Mais on modifie la personne. Si on bloque sa puberté, par exemple, vous savez, il ne faut pas bloquer la puberté trop longtemps. Parce que si on la bloque trop longtemps, on ne pourra jamais la redémarrer. Ça reste des petits enfants, comme les eunuques. Ça reste des eunuques. Si c'est des petits gars, on bloque la masculinité, c'est fini, c'est foutu. On ne pourra pas redémarrer. Parce que nous ne sommes pas que hormonalement dépendants. Notre cerveau est changé. Notre cerveau est changé. Sachons bien que le cerveau de l'homme est masculinisé jusqu'à 24 ans. Le cerveau de la fille est masculinisé jusqu'à 22 ans. Donc, tout ce qu'on peut faire pour protéger, laisser faire les choses telles qu'elles sont, notamment, je me permets de vous le dire comme vous êtes soignant, il faut vraiment lancer des travaux pour trouver d'autres contraceptifs que la pilule chez les jeunes. C'est gravissime. Vous avez des hormones qui sont faites pour féminiser et vous en privez les jeunes filles. Vous vous rendez compte? C'est gravissime. C'est-à-dire qu'après, rendez-vous compte de l'impact, car ce n'est pas récupérable. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la maladie Turner. La maladie Turner, vous savez, c'est quelqu'un qui est X. Il n'est pas XY, il n'est pas XX, il est X. Donc, son corps se développe et celui d'une femme. Celui d'une femme. Donc, si on ne faisait rien, comme du temps de Turner, ça restait des enfants, en fait. Des enfants. Turner, donc, a été un des premiers, aussi, en Autriche, à se dire, mais dans le fond, comme c'est des femmes, si on leur donne des hormones, on va leur faire faire une puberté, et merveille, elles font leur puberté, et donc développent les autres dimensions de leur féminité, celles que n'ont pas encore les petites filles, mais que la jeune femme a. Et donc, c'est très rare qu'elles aient des enfants, c'est très très rare. Mais beaucoup sont mariés et vivent une vie de femme qui a une difficulté, mais une vie de femme. Si on démarque le traitement trop tard, là ça ne marche pas. Parce que pendant la puberté, et jusqu'à 22-24 ans, on a besoin des hormones pour nous finir de nous façonner. Donc, les millions et milliards bientôt de jeunes filles qui ont reçu des contraceptifs en adolescence seront des femmes, de belles femmes, intelligentes, si elles veulent des enfants, elles en auront. Mais peut-être que beaucoup d'entre elles diront, c'est bizarre, moi, il y a ça, ben, je ne l'aime pas spécialement. J'ai entendu, oui, ben voilà, ça sera un handicap pour elles. Hein, par exemple, elles peuvent avoir du mal à s'attacher. Par exemple, ou des choses comme ça.
Donc vous dites que ça veut dire qu'à ce moment-là, je m'en crois, au tout début de ce soir, vous disiez qu'il y avait quand même des vraies variations en termes d'hormones entre
hommes et femmes.
Entre les femmes, mais que ces variations, elles étaient chevauchées sur un certain nombre.
Tout à fait.
Or, avec le dernier commentaire que vous venez de faire, ça voudrait dire que...
Mais dis-toi, j'ai l'impression qu'on est comme des... à une émission télévisée, la droite et la gauche, non, ça va, on peut travailler ensemble.
Je me fais aussi un peu l'avocat du diable.
Mais vous êtes d'accord, mais cherchons un peu ensemble, d'accord. Mais moi, je ne prétends pas avoir la vérité, mais je ne voudrais, voudrais pas me disputer avec vous. Vous comprenez, je ne prétends pas, moi, tout savoir. Hein. Donc, au début, je donnais une dimension où ça se chevauche.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça voudrait faire... Il y a plein de femmes qui, même sans prendre de contraceptif ou voilà, qui, à l'âge adulte, ne se sentent pas représentées dans certaines qualités. Mais
complètement. Ah oui, je ne l'ai pas assez dit, ça.
Si, mais...
Parce que vous savez, j'ai dit qu'il y avait 123 connues différentes psychologiques, mais chacun de nous, on a quelques-unes.
Exactement.
Moi j'ai des qualités, je crois être très empathique pour le proche, par exemple. Mais je ne me dis pas du coup, est-ce que je ne serais pas planté, je ne serais pas non, parce que j'ai d'autres capacités, par exemple le goût du systématique, qui me font dire,
ce qui m'a fait avoir une petite sensation de recul, c'était sur le terme de handicap que vous avez employé.
Oui.
Parce que, enfin voilà, sans rentrer trop personnel, moi il y a plein de fois où je me dis, je ne rentre pas dans le moule d'une femme, pourtant c'est pas un handicap dans ma vie, c'est une particularité de ma féminité.
Alors là, vraiment, si, je n'ai pas dit tout à l'heure handicap. J'ai dit handicap pour la personne à qui on donne des hormones synthétiques à un âge où ses propres hormones ont un rôle.
Est-ce que ce ne serait pas incroyablement compliqué, étant donné que justement ces hormones ont été données à une période de transition forte, de savoir si cette différence qui va être ressentie à l'âge adulte, elle est due aux hormones ou juste au fait
complètement. Mais ça a été analysé par des PET scans réguliers et on a vu l'évolution du cerveau de jeunes femmes sans contraceptif et de jeunes femmes avec contraceptif et on a vu une divergence se faire. Et donc, si vous voulez, une sorte de principe de précaution de se dire, mais dans le fond, quand on peut ne pas s'en servir, eh bien, c'est génial. Et moi, à titre personnel, je trouve que ça vaut la peine de chercher d'autres solutions. Parce que, si vous voulez, c'est trop dommage. Vous voyez, c'est l'impression que j'ai, c'est la même que si vous avez une plante qui est bien derrière la fenêtre. C'est une plante qui fleurisse bien. Les orchidées, voilà. Elles aiment bien la lumière, mais pas la chaleur forte, je crois. Eh bien, non. On va la mettre au milieu du salon. Elle restera moins belle, c'est tout. Ça reste une orchidée. Elle est belle, c'est génial. Mais on ne lui donne pas tout ce qui a été préparé pour elle, vous voyez. Donc, je dis handicap au sens de le même que quand vous mettez la course, vous savez, de chevaux, et vous donnez 3 mètres de handicap à un des chevaux. Vous privez quelque part la personne de quelque chose qui lui fait du bien. Vous voyez, c'est tout bête, hein, mais moi, je ne sais pas du tout pourquoi maintenant encore. Hein, mais pourquoi ce mouvement d'ocytocine dans le cycle? Regardez, ils sont jolis les schémas. C'est assez impressionnant. C'est dommage de priver si on a besoin d'ocytocine à ce moment-là. Laissons faire. Vous voyez? Je suis navré parce que je casse un peu l'ambiance. Là.
Mais moi, je trouve que cet argument-là, en fait, il peut se résumer à n'allons pas contre la nature. Surtout qu'on est à une époque où on a tendance à dire n'allons plus contre la nature. Donc,
oui, pour le coup, cherchons des solutions autres que. Soyons délicats pour moi, vous voyez. Soyons délicats, principe de précaution. Soyons délicats avec le masculin et le féminin, pour moi, vous voyez. Soyons délicats avec le masculin et le féminin. Les hommes, par exemple, vous savez combien de temps il a fallu pour parvenir au chromosome Y de l'homme? 160 millions d'années. C'est une œuvre d'art, le chromosome Y. Il a commencé son développement il y a 160 millions d'années. Donc, c'est une œuvre d'art, il y a très peu de gènes. Et c'est incroyable. Il est seul dans son. Faire une soirée là-dessus, mais si vous regardez sur internet, il y a un homme qui s'appelle David Page, je crois, qui a travaillé 25 ans sur la comédie grecque, et c'est mon maître en matière, et c'est extraordinaire, vous voyez. Donc, découvrons la grandeur de la masculinité pour qu'il puisse développer son potentiel au service de la société et pour permettre à la grandeur de la féminité de se développer encore plus. Sinon, on s'atrophie, vous comprenez. C'était la guerre du prolétariat et des ouvriers, maintenant c'est la guerre des sexes. C'est quand même pas géant. Il faudrait faire la guerre des fleurs après, ou je sais pas, mais il faudrait s'arrêter, quoi. Alors qu'il y a un potentiel extraordinaire biologique. Et bon, moi, je n'étais là que pour parler de neurosciences. Mais on s'est égaré petit à petit, les jeunes. Moi, parce que moi, je ne pense pas que ça dise la neuroscience, les hommes coulent devant la télé avec la bière et les femmes au fourneau. J'ai vraiment pas su ça dans aucun des 500 articles que j'ai lus. Mais par contre, je crois vraiment que ça peut renouveler notre regard sur l'autre différent. Et puis nous, de nous dire, tiens, j'ai telle inclination, celle-là, je la développe, celle-là, il faudrait peut-être que je modère.
Et c'est quoi le nom du scientifique dont vous avez parlé qui était à cette forme?
Je crois que c'est Sapolsky. Sapolsky. Vous regarderez Stanford University, Sapolsky, je crois que c'est un nom en livre, c'est Sapolsky, je crois. Vous regarderez, il est absolument passionnant.
Et du coup, vous pensez quoi des transgenres? Pour arriver à la conclusion.
Des transgenres. Moi, j'ai pas de transgenres dans mes amis ou mes collègues. On n'en a pas de nous. Donc, je n'ai pas été confronté à des personnes qui avaient ça. Par contre, je suis grand-père et papa. Papa, les enfants sont grands, ils ont 40 ans, 35 ans. On n'a plus un souci, mais on est en souci comme tous les vieux pour les petits. Et quand je vois qu'à l'école, on ne développe pas la masculinité, on ne la loue pas, on ne développe pas la féminité, on ne la loue pas au point qu'on propose même qu'il y ait un jour où les petits gars s'habillent une petite fille s'habille un petit gars, je trouve vraiment là c'est archaïque, quoi. Vous voyez, c'est l'homme de Cro-Magnon, quoi, ce pas intellectuel. Donc, personnellement, je pense qu'on doit, vraiment dire, de la même manière qu'on on dit paisiblement, mon petit gars, moi je t'aiderai, si tu veux faire ta scolarité, tes études, je t'aiderai, je ne te laisserai pas tomber. On doit dire pareil pour les autres dimensions de la personne. Donc, un enfant, on doit être à son service pour sa croissance dans tout son être, notamment sa croissance de masculinité, et sa croissance de féminité, voyez. Et moi, je rêve que de... Bon, je vous dirai après, je fais un peu plus que rêver, parce qu'on prépare des formations, on donne une formation en juin pour les directeurs d'école, pour qu'ils connaissent toute la grandeur de la féminité, au-delà du fait de faire la vaisselle, la cuisine, n'est-ce pas, et la grandeur du masculin, qu'ils connaissent pour pouvoir l'enseigner.
Et là aussi, sans vouloir en jouant un peu à la paix du diable, vous avez parlé au début...
Sans être trop taquin.
C'est ça.
Je ne vois pas que le diable soit dans cette salle.
Non, non, non. Vous avez parlé au début voilà, du fait qu'il y a des gens qui, vivent leur masculinité de façon différente, en ne se rattachant pas voilà, aux 123 particularités que vous avez citées. Et est-ce que...
Excuse-moi, mais sur les 123, les hommes, on en a au moins 80 déjà.
Oui, d'accord.
Mais les femmes, on en a au moins 80. Même si leur en manque, ce n'est pas grave.
Bien sûr, mais moi justement, ma question, c'est par rapport à l'éducation. Je me dis, est-ce que pour certains... qui ne se retrouveraient pas dans ces caractéristiques-là, ça ne pourrait pas être déstabilisant dès dans un enseignement qui serait à ce niveau-là trop bien, même si je pense que c'est quand même une bonne chose. Mais je me dis, que fait-on avec les personnes qui sont un peu en dehors du chemin?
Tu comprends le problème. Regarde, celui qui est en dehors du chemin en mathématiques, ben tu lui donnes des cours du soir. Celui qui est en dehors du chemin parce qu'il a besoin de faire du foot, il a besoin de bouger, être assis sur une chaise, ça ne passe pas, ben, tu trouves une solution pour qu'il puisse faire du foot. Tu vois, et donc quelqu'un qui a, je sais pas, 12 ans par exemple, je pense une femme à qui j'ai pu en parler, adulte, qui a vraiment souffert beaucoup, c'est un garçon manqué. Elle a rêvé d'être un garçon au moins jusqu'à 25 ans. Elle est maman et grand-mère, elle me dit, mais j'ai été tellement heureuse. Et ce sont les grossesses qui font nous des mères. Ma femme me l'a dit souvent. C'est les enfants qui m'ont fait moi-même. J'avais aucun goût pour pouponner, hein, vraiment zéro. Hein. Et, en fait, donc, en fait, c'est en faisant qu'on devient. Mais on a des ressources. Donc, à titre personnel, je pense que quand quelqu'un n'est pas à son aise, on n'est tous pas à son aise. Hein, un âge où les garçons se disent, mais j'ai pas de muscle, voilà, ou je sais pas quoi, ou les filles, ma poitrine est trop développée, ou je sais pas quoi. Ben, puis après, tout ça, ça s'arrange. Mais si tu ne dis pas aux gens, mais tu ne les écoutes pas avec douceur, avec attention, comme si c'était un problème de maths, ou de français, ou d'autre, et là, c'est terrible. Mais si tu les écoutes, tu les accompagnes, tu es leur service, et ils savent, parce que c'est clair dans l'école, qu'on progresse en sexualité jusqu'au-delà de la vingtaine, c'est comme dans la présent.
Oui, c'est ça. Je pense que finalement, il faut arriver à avoir une vision anthropologique qui soit binaire, sinon on tombe dans des dérives. Par contre, c'est l'approche pédagogique, elle, ne doit pas être binaire.
Bah oui, comme pour la, tu vois, comme pour les maths, où la, on n'est pas tous faits pour faire des maths et de la philo. Hein. Mmh. Heureusement qu'il y a des gars qui sont manuels. C'est peut-être ça ce que tu veux dire.
Non, mais, enfin, non, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'horizon qui doit être, je crois, entre masculin et féminin, ce que certaines personnes remettent en cause, ben pour moi, il n'y a pas matière
le problème,
à y
voir. Ouais.
C'est par contre dans l'approche qu'on a avec les petits-enfants, il ne faut pas forcément leur donner deux modèles distincts, non, voilà, non. Une caricature de l'homme et une caricature de la femme, ou sinon là, ça risque de poser des problèmes.
Mais,
pense
que oui, mais tu sais, quand toi, excuse-moi, j'ai dit tu, mais bon, on peut se soigner, tout soigner, on se tutoie, là, d'accord, anglo-saxon. Si dans ta famille, on reconnaît ta masculinité, la grandeur de ta masculinité, et tu loues chaque jour la grandeur et la beauté de ta femme, les enfants n'auront pas de soucis. Mais ils peuvent avoir des maladies, ils peuvent avoir des faiblesses, etc. Mais ils seront mieux. Sous-entendu, moi, je crois que c'est beaucoup nous-mêmes qui pouvons changer notre attitude, je pense. Et donc, à titre personnel, je pense qu'il faut vraiment faire connaître, et c'est le rôle de mon bouquin, faire connaître les qualités spécifiques de la femme, hein, au-delà des typologies racontées, tout le potentiel féminin, et qu'on connaisse tout le potentiel masculin, parce que là, vraiment, ça devient intéressant.
Oui. Après, c'est ma question de départ, c'est voir quel est le lien de causalité, pour le coup, entre une approche des neuroscientifiques et les qualités qu'on attribue aux hommes aux femmes. Je pense que, pour moi, ça me semble pas, de dire qu'il y en a toute une bonne partie qui sont sociales, c'est pas une aberration, et pour autant, ça veut pas dire qu'il faut les
balayer. Tu sais, c'est pas binaire, elles sont développées par la société.
Oui, notamment.
Mais tu développes quelque chose qui est là.
Oui.
Puis ces choses qui sont développées par la prise de puissance des femmes sur les hommes ou des hommes sur les femmes. Les hommes, c'est plus par les points, les femmes, c'est plus par les mots, mais de fait, on n'arrête pas de se castagner depuis des millions d'années. Hein? Donc, c'est pas non plus. On peut pas rêver du passé quand même. Oui, on peut peut-être s'arrêter. J'espère que ça vous a intéressé. J'ai été peut-être un peu trop enthousiaste.
Vous pouvez nous donner la référence de votre livre.
De mon bouquin. Je crois que j'ai des titres. On le trouve sur Internet. Là, je vais vous apporter des titres.